7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 31 mai. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'Europe unie décide de se priver du pétrole russe. Sixième train de sanctions adopté cette nuit. Le détail, Anaïs, dans un instant, après les autres titres.
Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après la mort du journaliste de BFM TV en Ukraine. La première campagne électorale de Jean-Michel Blanquer à Montargis pour un siège de député. Et puis, concert événement ce soir à Paris, l'intégralité du disque de Neil Young rejoué 50 ans après la sortie d'Harvest.
Et les invités du 7-9 ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Que sait-on précisément ce matin des circonstances de la mort de ce journaliste de BFM hier en Ukraine? Pourquoi ce conflit est-il particulièrement difficile à couvrir? Les rédactions doivent-elles continuer à envoyer leurs reporters sur ce terrain de guerre et notamment dans l'est de l'Ukraine? On pose toutes ces questions à Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, qui sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président du Rassemblement national, également eurodéputé, Jordan Bardella au micro d'Inter, avec vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Couper le robinet du financement de la guerre en Ukraine en fermant le robinet du pétrole russe. Les Européens sont tombés d'accord cette nuit sur un embargo quasi total sur le pétrole russe. Nous allons nous priver d'ici à la fin de l'année de 90% de nos importations. Mesure phare du sixième paquet de sanctions discuté à Bruxelles, adopté à l'unanimité. La Hongrie a obtenu une dérogation. Charles Michel, le président du Conseil européen, se réjouit, je cite, de couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie. À Bruxelles, Angélique Boin.
Volodymyr Zelensky les avait appelés en ouverture du sommet depuis Kiev en visio à adopter au plus vite ces sanctions. Les querelles internes doivent cesser, rester unis, leur a lancé le président ukrainien en plaidant une nouvelle fois pour qu'ils cessent de financer la guerre. Après le charbon, les Européens s'engagent donc à se priver à 90% du pétrole russe d'ici 6 mois et des 10 autres pourcents au plus vite. La Hongrie bénéficie de la principale dérogation présentée comme temporaire. Ces nouvelles sanctions visent aussi la plus grande banque russe, Sberbank, qui sera déconnectée du système international SWIFT, l'interdiction de diffusion dans l'Union de 3 chaînes accusées de propager de fausses informations et l'allongement de la liste noire de l'UE à 60 de personnalités, dont le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill. Les leaders européens ont aussi décidé d'accorder une nouvelle aide de 9 milliards d'euros à l'Ukraine, ce qui couvre environ 2 mois de ses besoins en liquidité pour faire tourner son économie, payer par exemple ses fonctionnaires. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Le sommet européen se poursuit aujourd'hui avec une question encore plus épineuse, celle du gaz russe. À partir d'aujourd'hui, Gazprom suspend ses livraisons aux Pays-Bas qui ont refusé de payer en roubles. Toucher la Russie au porte-monnaie aura-t-il un effet sur le déroulement de la guerre? Pour l'instant, les hommes de Vladimir Poutine affrontent les forces ukrainiennes en plein cœur de Severodonetsk, ville clé du bassin minier du Donbass, territoire continuellement bombardé par tout type d'armes, dit le gouverneur de la région de Lugansk. Bombes aériennes, artillerie, char. Et c'est dans cette zone que le journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imoff, a été tué hier, tué par un éclat d'obus alors qu'il filmait une évacuation de civils à bord d'un bus. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour crime de guerre, la sixième pour des faits commis sur des Français en Ukraine. Ariane Grissel.
Comme dans les autres dossiers français, les investigations sur la mort de Frédéric Leclerc-Imoff sont confiées aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, des enquêteurs qui expliquent que leur objectif, plus que de trouver l'auteur direct des tirs mortels, est surtout de remonter à chaque fois la chaîne de commandement. Hier, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a expliqué que le journaliste a succombé à un bombardement russe qui visait le convoi dans lequel il était en train de filmer. Cette enquête du parquet antiterroriste est donc ouverte pour plusieurs chefs, dont l'atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international des conflits armés, en l'occurrence en tant que membre de la presse, mais aussi pour attaque délibéré contre le personnel et les véhicules d'une mission humanitaire, puisque les tirs ont visé une évacuation. Les gendarmes français vont maintenant essayer de récolter un maximum de témoignages, de photos ou de vidéos des faits. Des investigations qui portent aussi sur les blessures subies par Maxime Brandstetter, l'autre journaliste de BFM TV qui accompagnait Frédéric Leclerc-Imoff sur ce reportage.
Frédéric Leclerimov, 32 ans, est au moins le 8e journaliste tué depuis l'invasion de l'Ukraine à 7h50. Léa Salamé recevra le secrétaire général de Reporters sans frontières.
Il est 7h05, l'UEFA ouvre à son tour à Naïs une enquête après le fiasco de samedi au Stade de France.
Un rapport que l'instance européenne du football veut indépendant, enquête confiée à l'ex-ministre portugais de la jeunesse et des sports. Car plus de 48 heures après cette finale, on ne comprend toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé. On a bien des témoignages. Un député anglais présent sur place dénonce un maintien de l'ordre, des stewards lamentables, une mauvaise gestion autour du stade. Des supporters madrilènes racontent avoir été cibles de vols à l'arraché. Les autorités françaises, elles, campent sur leur position. Ministre de l'Intérieur en première ligne. La cause, c'est la fraude massive organisée de faux billets. 40 000 supporters anglais sans billets ou avec des billets falsifiés, a redit hier Gérald Darmanin à la Gastal.
Et pourtant, l'UEFA, comme beaucoup d'organisateurs de spectacles, est en mesure de délivrer des billets infalsifiables, des billets que vous ne pourrez ni imprimer ni reproduire, explique Maxime Lignel, cofondateur de Relax Ticket. C'est un site de revente à prix coûtant de billets de spectacle.
Un billet qui va être associé à une application mobile sur un portable. Il n'est pas imprimable et le billet va être activé seulement à l'entrée de l'événement. On ne peut pas créer de copie, on ne peut pas le vendre sans l'autorisation de l'organisateur, à moins de vendre son portable.
Le problème, c'est que Liverpool, pour des raisons sentimentales, a demandé des billets papier. Les supporters, nous dit-on, veulent garder un souvenir de leur match, la preuve qu'ils y étaient. Rodolfo est le président des supporters français de Liverpool. Il a ainsi eu droit à une dizaine de tickets papier via le club. Et s'il a vu d'autres supporters tenter de tricher, il trouve que l'on charge un peu trop facilement les fans du club anglais.
J'ai vu les supporters de Liverpool, il y avait des faux billets qui protestaient, mais la protestation ne durait pas plus de 30-40 secondes. Moi, personnellement, je trouve que ces chiffres-là de 30 000, 40 000 faux billets, je le trouve absolument exagéré.
L'UEFA et la justice française ont chacune de leur côté ouvert une enquête.
Et les ministres de l'Intérieur et des Sports seront auditionnés demain après-midi par le Sénat. Incident en tout cas que le gouvernement ne veut pas voir monter en polémique à moins de 2 semaines du premier tour des législatives. Le chef de l'État est sur le terrain aujourd'hui avec la ministre de la Santé à Cherbourg, au centre hospitalier, pour parler santé et accès aux urgences. Lui a été évincé du gouvernement. L'ex-ministre de l'Éducation nationale joue sa survie politique en tentant de décrocher un siège de député. Le Parisien Jean-Michel Blanquer est en campagne dans le Loiret à Montargis, où ses concurrents, non sans humour, s'en donnent à cœur joie. Reportage Anne Swetchman.
Ambiance boîte de nuit. Dans les rues de Montargis, des militants Europe Écologie Les Verts.
Qui a besoin des tracts ?
Avec le sosie de Jean-Michel Blanquer.
C'est vrai qu'il a 100 ans.
Objectif, dénoncer le bilan du candidat ex-ministre.
Jean-Michel Blanquer est quand même le symbole de la destruction des services publics.
Et soutenir le candidat NUP, Bruno Notin.
Le côté le sosie qui vient, est-ce que vous en faites pas un peu trop ?
Ben non, si vous regardez notre acte, nous, c'est d'abord le programme. Alors après, si on peut casser un peu les codes classiques de la politique, on le fait.
Pendant ce temps-là, le vrai Jean-Michel Blanquer tracte sur un marché.
Est-ce que vous avez le programme ?
Non.
Bien accueilli, le marcheur est plutôt confronté à un problème de notoriété.
Vous savez qui c'est ?
Je sais pas.
Jean-Michel Blanquer, philosophe sur cette histoire de sosie.
Pas de problème avec les blagues.
Davantage agacé quand il est question de parachutage.
C'est pas la question la plus originale, il faut le reconnaître. Je vois les médias, certains médias nationaux tourner en boucle là-dessus, alors qu'en fait, on me parle plutôt des problèmes concrets. Pour l'instant, on parlait de l'hôpital.
Déserts médicaux, pouvoir d'achat, des sujets sur lesquels mise aussi le candidat RN Thomas Ménager. Marine Le Pen a fait ici plus de 50%.
C'est-à-dire depuis ce début de campagne, on parle beaucoup plus de parachute que de pouvoir d'achat. Moi, j'ai vraiment envie de parler des sujets de fond. Comment éviter qu'Emmanuel Macron passe la retraite à 65 ans?
Arbitre de ce troisième tour, la droite, sortante, mais divisée.
Anne Souhaitement dans le Loiret et on y sera encore dans le journal à 13h. Patrick Balkany n'a pas quitté la prison de Fleury-Mérogis. Le parquet a fait appel de la libération conditionnelle de l'ancien maire LR de Levallois-Perret. Appel suspensif en attendant que la chambre d'application des peines statue sur son sort. Au chapitre politique encore, le retour après les élections d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris qui va débloquer aujourd'hui 36 millions d'euros pour rénover son réseau d'eau non potable. Car oui, Paris est l'une des rares ville au monde a possédé un double réseau d'eau. Dans la capitale, on ne nettoie pas les trottoirs avec l'eau du robinet. C'est un héritage du baron Haussmann qui va servir à lutter contre le réchauffement climatique. Sandy Dauphin.
Non loin du Trocadéro, au milieu d'immeubles haussmanniens, se cachent deux gigantesques bassins à ciel ouvert. Ce réservoir d'eau non potable de Passy a été conçu au 19e siècle par l'ingénieur hydraulique du baron Haussmann, explique Benjamin Gestin, directeur général d'Eau de Paris.
Ils ont anticipé que Paris, pour devenir une ville moderne, devait prévoir ses besoins d'eau
adaptée aux différents usages, de l'eau potable pour les usages potables et de non potable pour les autres usages, et ça c'est visionnaire.
Ce réservoir fait partie des 1600 km de réseau d'eau non potable de Paris, une eau de rivière non traitée qui sert à faire fonctionner les égouts, arroser les plantes ou laver la voirie.
Nettoyer les rues avec de l'eau potable qui est ultra traitée avec 3 ou 4 étapes de traitement, c'est un gâchis de ressources écologiques, c'est un gâchis d'énergie. L'eau non potable, c'est une eau de qualité non potable pour des usages non potables. Il y a une question de bon sens en fait. Dans la mesure où ce réseau existe, il faut l'utiliser, notamment parce que cette eau est quand même moins chère du fait qu'elle n'est pas traitée. Donc c'est un atout écologique d'abord, économique ensuite.
Ce réseau hydraulique, plus que centenaire, va être modernisé pour adapter la ville au changement climatique. Dan Lair, adjoint au maire de Paris en charge de l'eau.
On va investir 36 millions d'euros pour maintenir ce réseau, optimiser son fonctionnement. On a des objectifs de végétalisation de Paris qui sont extrêmement importants et donc on va se servir de ce réseau pour remplir ces objectifs de végétalisation.
Ce réseau historique d'eau non potable a bien failli être supprimé par la mairie de Paris dans les années 80.
Renseignez-vous si vous allez en Belgique aujourd'hui, grève générale des services publics pour réclamer plus de pouvoir d'achat et de meilleures retraites. Le mouvement sera bien suivi dans les trains, les transports urbains et les administrations.
Il est 7h11, le tennis à Roland-Garros, c'est l'élimination du numéro 2 mondial.
Daniil Medvedev, balayé hier par Marine Cilic en 1h45, n'ira pas en quart de finale. Mais ce que les amateurs de tennis attendent, c'est la rencontre de ce soir, la 59e entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Parole de fan tout à l'heure à 8h. Chez les femmes, 32e victoire de rang pour Swiatek, numéro 1 mondial, qualifié pour l'écart. Et ce soir, si vous n'êtes pas tennis, vous aurez le choix. Séquence nostalgie au 104 à Paris. Les 5 membres du groupe normand La Maison Tellier rejouent l'intégralité de l'album Harvest de Neil Young, 50 ans après sa sortie, avec de nombreux invités, Mathieu Culeron.
Le groupe La Maison Tellier convoque la fine fleur de l'esprit folk français pour rendre hommage à l'album culte de Neil Young. Une démarche osée mais surtout réjouissante pour Helmut Tellier, le chanteur du groupe.
On est resté le plus fidèle possible. Les premières secondes d'Out on the Weekend, il y a quelque chose qui est vraiment comme une espèce de le papier peint de la cuisine de quand on était petit, c'est-à-dire qu'on l'a gravé pour toujours en soi. Ado, je chantais en même temps que les disques, hein, donc là, t'as l'impression d'être dans le disque, c'est cool quand même, c'est super. Quoi.
Parmi les invités pour chanter Neil Young, on retrouve Albin de la Simone, Edge Burns, Armand Méliès ou encore Émilie Loiseau qui en revisitant Harvest se replonge dans son enfance.
Chanter ce disque, c'est juste un bonheur quoi. C'est tellement beau. Neil Young était, ça faisait partie de la bibliothèque discographique chez mes parents. Ma mère était anglaise, mon père français. Post-68ard, avec un oncle qui fait du théâtre ambulant et des chansons au Canada, bon, c'est clair qu'il y avait Neil Young, Dylan, tout ça dans la bibliothèque, clairement. C'est bien plus tard que j'ai écouté ça pour moi et que c'est devenu quelque chose d'intime, et c'était Harvest.
Les 50 ans d'Harvest, le disque fondateur de Neil Young joué en intégralité ce soir, la Madeleine de Proust de tous les amateurs de folk pour une soirée de création unique au 104. I sing the song because I love the
man. Another summer. Voilà, et un dernier mot de théâtre quand même. Une comédie couronnée hier au Molière. 4 statuettes pour Comme il vous plaira de Léna Bréban. Stéphane Capron y était. Il nous racontera tout à 7h30.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, les portraitistes de la reine Élisabeth.